VOA Afrique, les infos. À Washington, Henri Francisque.
16h à Nouakchott, 17h à Libreville, bienvenue à notre journal. Au Mali, 3 soldats maliens tués cette nuit dans une attaque lancée par des djihadistes présumés à Léré dans la région de Tombouctou. Le point avec Idriss Fall.
Selon l'AFP qui cite une source militaire malienne, c'est un poste de l'armée qui a subi une attaque à Léré au sud-ouest de Tombouctou. Les assaillants, qualifiés de terroristes, ont pu s'échapper. Deux habitants de cette localité près de la frontière avec la Mauritanie ont confirmé l'attaque survenue cette nuit. Ces dernières semaines, il y a eu plusieurs assauts contre l'armée malienne. Le 19 février, des djihadistes présumés ont attaqué une position de l'armée dans la zone de Menaka, tuant au moins un soldat. Le 12 février, 3 militaires maliens ont péri dans une embuscade entre Tombouctou et Gundam. En 2015, un accord de paix a été signé entre Bamako et des groupes armés du Nord, mais des zones entières échappent encore au contrôle des forces maliennes, onusiennes et françaises qui opèrent dans le pays.
Élections au Niger, 3 jours après le double scrutin présidentiel et législatif dans le pays, les résultats des élections se font toujours attendre. La CENI, la Commission électorale nationale indépendante, prévoit de finir la compilation et la publication de ces résultats dans les heures à venir, alors que la population s'impatiente et se pose des questions. Plus de détails avec notre correspondant à Niamey, Abdulrazak Idrissa.
Notre préoccupation, c'est de communiquer des résultats fiables. Cependant, nous sommes en train de mettre le paquet pour finir le tout, avoir l'intégralité des résultats, l'ensemble des résultats aujourd'hui et les diffuser.
Des explications qui ne semblent pourtant pas convaincre beaucoup de citoyens qui s'impatientent 3 jours après le scrutin.
Le retard accusé. Et au niveau de proclamation des résultats par la CENI, nous inquiète à plus d'un titre. Cela a permis aux différents clans politiques de s'auto-proclamer et de donner des informations, en tout cas des natures, à entamer la crédibilité des résultats qui seront proclamés par la CENI. Les gens l'ont dévancé, les gens sont en train de raconter de n'importe quoi. Je pense pour mettre fin à ces rumeurs, la CENI doit prendre toutes ses responsabilités pour accélérer.
Sur les accusations de fraude ainsi que le rejet par l'opposition politique des résultats partiels communiqués jusqu'ici par la CENI, le président Boubé Ibrahim estime que c'est très tôt et qu'il y a dans tous les cas des voies de recours qui sont prévues. Abdulrazak Idrissa à Niamey pour VOA Afrique.
Burkina Faso, maintenant, c'est maintenant officiel. Blaise Compaoré, le leader qui a dirigé le Burkina pendant 27 ans en tant que président du pays, est désormais ivoirien naturalisé. Comment les Burkinabés ont-ils accueilli la nouvelle? Notre correspondant Ouagadougou Zoumana Ronogo a promené son micro dans les rues de la capitale burkinabé.
Moi, c'est Noufou Compaoré, comme Blaise. Je me dis que c'est une couverture pour échapper à la justice burkinabé. Je me demande pourquoi il a accepté ça. De toute façon, il ne peut pas échapper. Qu'il soit ivoirien, américain ou chinois, il ne peut pas échapper à la justice burkinabé.
C'est M. Jean Modeste. Je suis mécanicien à Ouara. J'ai honte, je n'ai même pas pu gérer ça. Je n'ai même pas pu bien dormir hier. Je suis très malade présentement là où je suis même. J'ai honte parce que si le premier des burkinabés est devenu ivoirien, mais que deviendront les autres? Il a peur de la justice.
Je suis madame Fatou Ouédraogo. On n'a pas le choix, sinon c'est pas normal. Mais qu'est-ce qu'on peut dire? Puisque Alassane a déjà signé d'après. Mais avec tout ça, on va se plaindre toujours contre lui. Il va répondre. Ça nous fait très très mal. Parce qu'il est burkinabé. Il a dirigé ce pays par un cas 27 ans. Par prendre la nationalité pour fuir la justice. Je ne suis pas contente.
Ouédraogo Abubakar, moi ça me fait très mal que notre frère président Blaise Compaoré prenne la nationalité ivoirienne. On sait qu'il a pris une famille ivoirienne, mais quelque soit, elle est toujours burkinabé.
Ludovic Lalogo, voilà, je suis citoyen burkinabé. Je suis surpris que l'ancien président du Burkina Faso ait pris la nationalité ivoirienne. C'est bon, vraiment, je suis surpris. Ça, c'est la première des choses. Et je me dis, qu'est-ce qui pourrait amener les autorités ivoiriennes à naturaliser un ancien président, un président d'un pays voisin qui est poursuivi par les autorités de ce pays pour beaucoup de crimes? Bon. Ça rime à quoi nous sommes en train de nous poser des questions.
Voilà, c'était un vox pop de la part de notre correspondant Ouagadougou, Zoumana Ronogo.
La Voix de l'Amérique en direct de Washington.
Afrique centrale maintenant, au Tchad. La population a largement suivi aujourd'hui à N'Djamena et en province la journée ville morte, préconisée par la plateforme Ça suffit, réclamant le départ du président Idriss Déby Itno qui veut se présenter pour un cinquième mandat après 26 ans au pouvoir. Un arrêt de travail jugé illégal par le ministre tchadien de la Sécurité. Ce mouvement s'inscrit dans le cadre de la campagne de contestation du pouvoir sans partage du président Idriss Déby, qui a débuté le 15 février par des manifestations estudiantines contre le viol de la jeune tchadienne Zoura par des fils de dignitaires. Deux lycéens ont été tués par la police et l'armée au cours de ces manifestations. L'opposition politique, dont le chef de file Salé Kebzabo va se présenter à l'élection présidentielle du mois prochain, est lui aussi contre le chef de l'État et a été interdite de manifester hier dans la capitale. En Ouganda, le parti du président Yoweri Museveni, au pouvoir depuis 30 ans et réélu samedi dernier pour un cinquième mandat de 5 ans, devrait rester largement majoritaire au Parlement, selon les résultats incomplets communiqués aujourd'hui par la commission électorale. Le mouvement de résistance nationale, NRM, au pouvoir, devrait gagner plus des deux tiers des 420 sièges de l'Assemblée monocamérale. Mais au moins 17 ministres, dont celui de la Défense, Crispus Kiyonga, chargé de la médiation de la crise au Burundi, ont perdu leur siège lors des élections législatives du 19 février. Et concernant cette crise au Burundi, l'opposition burundaise en exil a dénoncé mardi une fausse ouverture après l'annonce par le secrétaire général de l'ONU, Ban Ki-moon, que le président Pierre Nkurunziza avait accédé à sa demande d'engager un dialogue inclusif avec les opposants politiques. Pour des précisions sur cette controverse, Timothée Donangmaï a rejoint à Dar es Salaam en Tanzanie Hussein Rajabu, leader d'une faction du CNDD-FDD, le parti au pouvoir à Bujumbura.
Cette suggestion de Ban Ki-moon n'est pas la première. C'est une suggestion qui succède aux autres provenant de l'Union européenne, l'Union africaine et d'autres coins du monde. Donc pour nous, c'est une très bonne suggestion. Et malheureusement, c'est lui qui devrait faire un bon geste pour que cette suggestion puisse apporter des fruits. C'est bel et bien Pierre Nkurunziza. Et malheureusement pour lui, chaque fois, tantôt il accepte, tantôt il renie à ce qu'il avait déjà accepté. Donc c'est pas pour la première fois, seulement cette fois-ci, il y a une très grande intensité de pression et nous pensons que Nkurunziza va se courber devant cette suggestion et surtout devant d'autres pressions qui vont suivre.
Hussein Rajabu, leader d'une faction du CNDD-FDD, joint à Dar es Salaam en Tanzanie. En Afrique du Sud, la chambre basse du Parlement a adopté un projet de loi qui ressemble à un premier pas vers la réforme agraire. Eric Manirakiza.
La question de la terre reste sensible en Afrique du Sud, 22 ans après l'apartheid. La chambre basse du Parlement a adopté hier un projet de loi permettant au gouvernement d'acheter la terre en fixant son prix et au besoin en expropriant dans l'intérêt public. Pour devenir une loi, ce projet doit d'abord être approuvé par le Sénat, puis promulgué par le président Jacob Zuma. Il s'approche d'une réforme agraire, mais se différencie des expropriations forcées comme au Zimbabwe. Les partis d'opposition et les gros fermiers blancs l'ont dénoncé, mais pour l'ANC au pouvoir, c'est le moyen de rendre équitable l'accès à la terre et aux ressources naturelles. Depuis 1994, près de 8 millions d'hectares ont été transférés à des fermiers noirs, ce qui représente à peine 8 à 10% des terres détenues par des blancs.
Et pour terminer les primaires présidentielles aux États-Unis, le milliardaire Donald Trump a conforté son avance dans la course à l'investiture du Parti républicain comme candidat à la présidence en remportant 46% des suffrages dans le Nevada face à ses rivaux Marco Rubio et Ted Cruz, John Lindon.
C'est une nuit incroyable, a déclaré Donald Trump à ses partisans dans un discours célébrant son triomphe. On ne s'attendait pas tellement à gagner. Nous allons gagner le pays et bientôt c'est le pays tout entier qui va gagner, s'est-il félicité de son siège de campagne à Las Vegas. Trump avait déjà remporté les primaires républicaines en Caroline du Sud et dans le New Hampshire. Seul l'Iowa lui a échappé pour l'instant, le sénateur Ted Cruz y étant arrivé en tête. Au deuxième et troisième place dans le Nevada, loin derrière Donald Trump, le sénateur de Floride Marco Rubio et Ted Cruz étaient crédités de respectivement 23 et 21 % des suffrages. La victoire de Donald Trump était largement attendue. Le New-Yorkais de 69 ans s'est montré confiant pour le reste des primaires et notamment pour le super mardi, scrutin qui se déroule simultanément dans une douzaine d'États et qui aura lieu mardi prochain.
Merci de votre attention.
Soyez au cœur de l'info sur VOA Afrique.